Bonsoir Kevin, comment ça va?
Bonsoir Hugo, ça va bien et toi?
Ça va bien aussi, merci. On se parle, ben comme d'habitude, on se parle à peu près une fois par semaine depuis un certain temps déjà. On se retrouve, c'était, je le mentionnais là, dans le précédent épisode du début de la mercredi, donc vous écoutez cet épisode-ci au minimum, donc le 12 octobre, le mercredi, 13, pardon,
le vendredi 13. Le 13, 13 vendredi 13.
Vendredi 13, toi, chose, écoute. Je le mentionnais donc dans l'épisode avec Jean-Philippe quand on parlait d'Ahsoka. Aujourd'hui, on se retrouve, toi et moi, Kevin, pour parler du Festival du Nouveau Cinéma. On avait annoncé qu'on allait faire une couverture, donc voici au moins certainement la première partie, peut-être l'intégralité, on verra si on a du temps pour s'en reparler, mais au moins une première partie de notre couverture pour le Festival du Nouveau Cinéma. Quand même beaucoup de choses sur le Festival du Nouveau Cinéma, mais j'avais oublié à quel point il y avait du stock. J'allais voir le lancement de la programmation, puis c'était assez costaud, là.
Oui, vraiment. J'ai pas les chiffres devant moi, mais on parle, si on inclut les longs et les courts-métrages, c'est vraiment des centaines de films, là.
Voilà. Donc, ça me rappelait un peu Fantasia.
Ouais.
Il y avait toutes sortes de catégories, puis après 5 minutes, moi, j'avais besoin d'un adulte, là, j'avais perdu le fil. mais c'est surtout que là, bon, évidemment, c'est rien contre les gens qui nous présentent leur section sur lesquelles ils ont travaillé pendant généralement des mois, peut-être même plus. Et là, on nous parle de plein de films, puis là, soudainement, après ça, on nous parle d'autres grandes quantités de films, puis bon, j'ai pas la programmation dans les mains, en fait. Moi, je m'ennuie, en fait, du gros catalogue de Fantasia, je sais pas si tu t'en souviens, bien sûr, là.
Oui, ben il publie encore. Moi, j'ai celui de cette année de Fantasia. Je l'ai. Tu sais, je travaille dessus. Fait que je vais toujours me l'acheter pour ma collection.
OK. Ben, j'avoue que moi, ça fait quelques années, puis c'est un peu mon erreur aussi. Je vais pas chercher. J'écoute des films à distance. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs cette année, encore une fois, quand on a fait notre épisode sur Fantasia. Donc, je vais pas chercher ma passe de presse. Et j'imagine qu'il donne peut-être un programme avec la passe. Donc, comme je ne vais pas sur place, ben c'est ça, ça m'apprendra.
Ben, comme pour le Nouveau Cinéma, moi, je suis allé chercher ma passe, puis c'était comme un petit fascicule de, sais pas, peut-être une 15-20 pages. C'était pas je sais pas s'ils ont fait un gros catalogue cette année pour FNC.
Ben, en tout cas, ça coûte beaucoup d'argent aussi, clairement,
ouais,
imprimer ça. Je me souviens qu'effectivement, le Fantasia avait arrêté de faire des grandes conférences de presse pour le lancement de la programmation parce que ça devait coûter trop cher de louer une salle et tout ça, de réserver du temps. Bref, on n'est pas là, évidemment, pour parler de Fantasia, on est là pour parler du FNC. Est-ce que tu es satisfait jusqu'à présent de ton expérience 2023 du FNC?
Oui, je suis satisfait. J'ai vu quand même plusieurs films. J'ai pas mal aimé tout ce que j'ai vu. Il n'y a rien que j'ai vu que j'ai fait « Ah, OK, ça, c'est vraiment une perte de temps. » Tu sais, j'ai été... satisfait par mes choix de films. Tu sais, c'est ça aussi un peu l'affaire, c'est que, tu sais, on dit il y a des centaines de films, après ça, faut y aller selon ses intérêts. Tu sais, moi,
oui.
J'aime beaucoup le cinéma de genre, j'aime beaucoup le cinéma québécois, il y a certains réalisateurs, réalisatrices qui m'intéressent plus, que j'aime suivre leur carrière. Fait qu'en allant vers ce qui nous intéresse, il y a des meilleures chances de pas être déçu.
Oui, absolument. C'est certain qu'on fait déjà un premier tri. On peut pas tout aller voir encore une fois. Surtout souvent qu'il y a des séances qui sont en même temps à différents endroits. Donc, évidemment, c'est impossible de tout voir. J'ai une amie qui me disait tout à l'heure qu'elle est allée voir 15 films jusqu'à
wow.
présent. Donc, elle a plus de temps, là. Mais moi, je te dirais, là, j'ai vu 3 longs métrages, j'ai vu 2 courts. Je vais peut-être voir un ou deux autres longs métrages, mais ça risque d'être ça. Derrière, on a une sélection ce soir de films qu'on a chacun vu de notre côté, des films aussi qu'on a vus tout seul, c'est-à-dire l'autre personne les a pas vus. Je te proposerais peut-être qu'on commence. On a 2 courts métrages donc qu'on a vus chacun de notre côté. C'est un peu la formule qu'on avait effectivement avec Fantasia notamment.
Ouais.
On avait aussi fait 2 courts métrages avant de parler des longs métrages. Est-ce que ben écoute, plongeons, si tu veux bien, donc dans ces courts-métrages. Moi, je commencerai avec Aphasie. Je sais pas ce que t'en penses, ça t'irait parfait.
Oui, ben c'est ça, c'est le plus court qu'on a vu. Je pense que c'est à peu près 3 ou 4 minutes. Fait que
voilà.
Je pense qu'on peut y aller comme ça en douceur.
Effectivement. Aphasie, c'est les gens de l'ONF qui nous connaissent, là, qui connaissent Pieuvre, qui m'ont contacté, Nadine Viau, là, qui est la responsable des comme on la salue d'ailleurs. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, qui m'écrit et me dit, pour ta couverture du FNC, est-ce que tu aimerais voir ce film-là? Puis moi, je me disais, bon, court-métrage, toujours bien. Effectivement, c'est un film qui dure 3 heures, des fois, ça peut être un peu long. Un court-métrage qui dure 3 minutes, c'est rare que tu vas dire, ouais, il aurait pu couper 15% ou 20%.
C'est ça.
Donc, Aphasie, c'est un court-métrage sur l'aphasie. Il n'y a pas de surprise là. C'est une aphasie qui est un trouble du langage, mais qui est souvent associé à des pertes cognitives, de la démence. Bon, je suis pas un spécialiste, évidemment. Peut-être lié aussi à l'Alzheimer. Bon, des maladies, généralement de la vieillesse. Et donc, c'est ça. C'est un court-métrage qui parle de l'aphasie. Marielle Dalpé, que je ne connais pas, mais bon, qui évidemment, quoi, est aux commandes de ce film-là, un film d'animation. Qu'est-ce que tu as pensé de l'aphasie, Kevin?
J'ai trouvé ça très efficace, assez troublant, mais de façon intentionnelle, parce que justement, ce que Marielle Dalpé fait, c'est pour nous faire ressentir c'est quoi de souffrir d'aphasie. Visuellement, tu sais, c'est un film d'animation. L'animation est vraiment éclatée, c'est vraiment chaotique. Des fois, ça a l'air d'être griffonné à l'écran, puis ça change tout le temps de style visuel. Et aussi dans la conception sonore, il y a une voix off, une narration par André Lachapelle, une comédienne qui nous a quittés il y a quelques années, mais qui avait eu le temps d'enregistrer la voix off pour ce film-là. Et c'est comme, elle nous explique un peu c'est quoi l'aphasie, mais ses phrases n'arrêtent pas de couper. C'est comme si elle cherchait ses mots, ou il y a aussi plein d'effets sonores un peu abrasifs, puis tout ça. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de... On se sent pas super bien en écoutant ce film-là, mais tu sais, c'est ça le but, là.
Oui, absolument. Puis je pense que le fait de... Si ça avait duré 30 minutes, je pense que ça aurait pas été aussi efficace. Même 10 minutes, là, ça dure, c'est ça, on l'a dit, 3 minutes et des poussières. Ça frappe fort. Je pense qu'on n'a pas le temps de niaiser, comme on dit. Donc, c'est vraiment, tu l'as mentionné, effet visuel, effet sonore. On a l'impression un peu de plonger dans l'aphasie, dans cette dégradation-là des capacités de langage et cognitive, encore une fois, donc c'est évidemment assez étroitement lié. Ça m'a rentré dedans un peu parce que j'en ai déjà fait mention, là. Moi, j'ai perdu mes grands-parents assez récemment, il y a quelques années déjà, mais c'est dans le coin de avant, un petit peu avant, puis un peu après le début de la pandémie. Mes deux grands-pères sont décédés. Ma seule grand-mère restante est décédée aussi. Et cette grand-mère-là souffrait, pas nécessairement d'aphasie, mais souffrait d'un déclin cognitif progressif. Elle était encore fonctionnelle avant qu'elle décède, mais bon, on sentait que t'es un peu moins là, elle oubliait des choses, tout ça. Et ça m'a rappelé à quel point tu peux perdre des gens sans qu'ils soient vraiment partis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, absolument. Puis tu sais, c'est sûr que moi aussi, ma grand-mère est décédée, mais il y a quand même une dizaine d'années. Puis à la fin, elle souffrait de la maladie d'Alzheimer, tout ça. Fait qu'elle était vraiment en perte cognitive, tout ça. Puis aussi, ça me fait penser, c'est moins intime et personnel, mais on avait fait un épisode sur Bruce Willis quand il y a eu son diagnostic, quand ça a été annoncé au public, que justement, je pense que c'était ça, l'aphasie dont il souffrait, ou peut-être de la démence, etc. Là.
Oui, absolument. Ben donc, c'était le fait, bon, avant Bruce Willis cumulait les films à une espèce de navet un peu, où il était là comme 5 minutes, et on se demandait pourquoi, puis il y avait des rumeurs de ce qui est malade, tout ça, puis effectivement, il souffre d'aphasie, et il voulait ramasser un plus d'argent possible avant de plus être capable de travailler pour continuer à aider sa famille, tout ça. Et je sais pas, ça fait quelques semaines ou quelques mois maintenant qu'il a complètement arrêté de travailler, là, il est plus du tout en état... d'être acteur.
C'est ça, le lien que je faisais, c'est que c'est justement, tu sais, c'est quelqu'un que, tu sais, il n'est pas décédé, mais
non,
ça l'a vraiment mis fin à sa carrière, à sa vie publique. C'est vraiment que, on espère, je pense qu'il a l'air quand même bien entouré par sa famille, mais le fait d'avoir une maladie comme ça, c'est comme, on ne peut plus vraiment travailler ou vraiment évoluer en société.
Non, non, absolument. Fait que, bref, je pense qu'effectivement, Marielle Dalpé le met le doigt sur le bobo, là, vraiment, de façon très efficace. Donc voilà, je le recommande. Si on arrive, à, je pense, à le diffuser sur le site de l'ONF, si c'est une production ONF, j'imagine que c'est accessible.
Éventuellement, ouais.
Publiquement. Donc voilà, on va passer peut-être à la suite, changement complet de style, avec Faire un enfant. Dis-moi ce que tu as pensé de ce court-métrage.
Ah, j'ai adoré ce film-là. C'est un court-métrage de Éric Caboulian qui dure, celui-ci dure à peu près 20 minutes.
Oui.
Puis tu sais, autant que Aphasie, c'était une bonne idée traitée de façon efficace, tu sais, vraiment nous faire ressentir la confusion, tout ça. Puis pendant 3 minutes, c'est juste, on comprend tout de suite cette unique idée-là, mais qui est bien rendue. Ce que Éric a fait dans son film, lui, au contraire, tu sais, je pense que ça aurait pu pratiquement être un long métrage parce ouais. que je lisais qu'il y a quelque chose comme 67 scènes. Tu sais, 67 scènes, ça peut être un long métrage, mais là, ce qu'il a fait, c'est qu'il en a fait un court de 20 minutes et c'est super punché avec plein d'ellipses. Je pense qu'il a été influencé par un autre court-métrage depuis plusieurs années, ça s'appelait « Toutes des connes » de François Jarreau, scénarisé par Guillaume Lambert, qui était aussi un film qui avait super gros de scènes en seulement quelques minutes, genre à chaque 15-20 secondes, on est rendu à une autre scène, il y a tout le temps des ellipses, puis c'est dans les deux cas, c'est en grande partie des comédies, c'est vraiment punché. Puis ouais, pour résumer, oui, j'ai adoré ça.
j'ai beaucoup aimé ça aussi. En fait, le titre le dit un peu ce qui se passe. Hein, autant comme Aphasie parlait d'Aphasie, là, faire un enfant me parle de bon, la procréation. C'est un couple qui essaie de faire un bébé, dont le couple, dont l'homme dans le couple, c'est Éric Caboulian lui-même. Et la femme dans le couple, c'est, et là, je vais massacrer son nom de famille, je suis désolé, Florence Blain-Baillé. Peut-être c'est comme ça que ça se prononce.
Je pense que oui.
Bref,
on avait parlé d'elle, elle jouait dans le film « Cette maison » qu'on avait fait, je pense, au début de l'année.
Ah oui!
Qui était comme une docu-fiction.
Je me souviens de l'avoir vue, effectivement. Là.
Ouais,
je pense aussi qu'elle était dans « Faradar ».
Ah
Peut-être celle qui a brièvement une espèce de semi-début de relation avec Éric Caboulian, justement.
Ouais, je suis pas sûr que c'était elle.
Peut-être que je me trompe, c'était pas elle. Mais... C'est parce que je parle de Faradar, ça m'a beaucoup fait rire. C'est parce que faire un enfant, c'est très adulte comme thème, évidemment. Généralement, si vous faites des enfants, vous êtes pas majeur, c'est parce qu'il y a peut-être un problème. En tout cas, bref, c'est une autre histoire. Et la dernière fois que moi j'ai vu Éric Caboulian, c'était dans Faradar où c'est une espèce d'adolescent qui jouait à Donjons et Dragons constamment, qui a pas vieilli vraiment. Il a vieilli un peu dans sa tête, mais pas tant que ça. Là, on le voit vraiment comme un problème d'adulte. Il arrive pas à faire un enfant avec sa blonde. Ça va pas bien. Au début, tu te dis, bon, c'est le fun, on fait l'amour tout le temps. Puis à un moment donné, c'est un travail. Hein? Donc, et il y a certaines scènes qu'on dévoilera pas. Mais ce que je t'ai mentionné sur Twitter, en fait, sur X, anciennement Twitter, avant qu'on enregistre, c'est sur ma carte de bingo pour aujourd'hui, j'avais pas ces scènes-là avec Éric Caboulian. J'en dis pas plus, mais sur le coup, c'est comme, OK, d'accord, c'est dans le contexte du film, c'est correct. Ce serait un peu spécial d'aller peut-être prendre une bière avec lui après, mais bon, dans le contexte du film, ça fonctionne bien. Mais oui, tu l'as dit, c'est très punché, ça va vite, c'est bien tourné. J'ai aimé un peu le lettrage, beaucoup de lettrage à l'écran, bon, évidemment, le titre du film, mais bon, il s'essaie plusieurs fois à faire un bébé, et là, t'as, bon, essai numéro, je sais pas quoi, 27, 35, et je trouvais que ça faisait un peu... T'as des films comme ça où supposément c'est la vie idyllique en banlieue, puis là t'as du lettrage un peu courbe, et là c'est tout est fleuri, tout est beau, puis finalement tu te rends compte que sous la couche supérieure, il y a vraiment quelque chose de pas bon qui se passe. Et je trouvais que ça rappelait ça pas mal. Tu sais, en apparence, tout est fantastique, puis être mère, c'est donc bien extraordinaire, puis c'est la beauté de la vie, c'est de faire des enfants, puis finalement tu te ramasses à pu avoir aucun plaisir à faire l'amour pendant des mois parce que là, ça marche pas. Puis je vais terminer là-dessus, mais il y a au début du film, au début du court-métrage, ils finissent de faire l'amour et là, il dit à sa blonde, lève tes jambes dans les airs. Puis là, elle dit, ben non, ça marche pas, ça, voyons là. Puis là, finalement, elle le fait. Elle dit, combien de temps je suis supposé attendre? Lui, il répond, ben, jusqu'à ce que tu sois enceinte, j'imagine. Donc, il y a vraiment quelque chose. C'est très naturel, le dialogue est très, très bon. Donc, moi aussi, effectivement, j'ai beaucoup aimé ça. Puis ça c'est bien scénarisé, puis probablement qu'effectivement, ça aurait pu être un long métrage.
Mais c'est ça, tu sais, on connaît beaucoup Eric comme scénariste.
Oui.
T'sais, juste dans les films qu'on a parlé au podcast, c'était le co-scénariste de Viking. T'as mentionné Farador, il a travaillé là-dessus aussi.
Oui.
Puis il a fait quand même beaucoup de films. Puis comme acteur aussi, on le voit dans plusieurs films depuis plusieurs années, dont Farador. Puis là, vraiment, comme réalisateur, il s'impose. Puis c'est vraiment, OK, ce gars-là, il a tous les talents.
Oui.
Puis moi, ça me faisait penser entre autres, dans le style d'humour, ça peut faire penser à du Judd Apatow ou les films avec Seth Rogen, le côté vraiment à la fois réaliste, mais un peu absurde.
Ouais.
On revient tout le temps au sens du punch, c'est très humoristique.
Mais en moins vulgaire quand même, on va se dire.
Oui, vulgaire un peu.
Ouais.
Ben, du moins, peut-être pas vulgaire, mais...
Non, mais ce que je veux dire, c'est moins vulgaire que Judd Apatow.
Ouais, ouais, Seth Rogen. Je comprends. Non, c'est ça, c'est quand même plus... c'est sûr qu'il y a du sexe, mais c'est pas... juvénile, disons. Voilà. Comme tu disais au début, il y a quand même une maturité. Puis, parlant de maturité aussi, il y a un côté... tu sais, moi, ça me faisait penser aussi un peu au film de Woody Allen où, tu sais, je pense, admettons, à des grands classiques comme Annie Hall, à cause de la chimie entre les deux personnages, entre Eric Boulian puis Florence, l'actrice avec qui il joue. Je trouve vraiment qu'ils ont un naturel, qu'ils ont l'air d'être un vrai couple, qu'ils ont une complicité... Puis des fois, il y a des tensions, il y a des chicanes, mais tout ça est super réaliste. Puis c'est à la fois drôle, touchant, puis tout ça, c'est vraiment réussi.
Oui, absolument. Puis bon, encore une fois, donc, on félicite Eric Boulian pour ce court-métrage, effectivement, très, très bien réussi. Faudrait voir s'il y a peut-être d'autres projets. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? Ça, moi, je le connais, évidemment. On le connaît pas personnellement, là. Mais c'est ça. De voir, effectivement, la suite des choses pour lui. Mais ça, tout à fait, là, faire un enfant. Encore une fois, c'est un peu plate de parler de ce genre de film-là parce que des courts-métrages, à part dans les festivals, tu loues pas ça. Ça, les clips vidéo, ça existe plus anyway, mais t'as pas ça sur Netflix nécessairement, une série, mettons, court-métrage de tel à québécois ou quoi. Ça manque un peu cette accessibilité-là.
Ouais, ben, il y a certaines plateformes, mais semble que sur mettons Tout.tv, ils ont, ou peut-être je me trompe, mais il me semble qu'il y a des plateformes qui ont une section court-métrage quand même qu'on peut voir, ou sinon sur sur YouTube, sur Vimeo, éventuellement les films sont quand même disponibles. Mais je voulais mentionner que pour faire un enfant, il va avoir une chance de le voir à Montréal après le FNC. Il va rejouer à Spasm lors de la soirée d'ouverture, qui est un spécial sexe. On est dans le thème.
Ben oui.
C'est le 18 octobre au Théâtre Plaza. Donc, si vous réussissez pas à le voir, je pense que quand notre épisode va sortir, les projections au FNC vont être déjà terminées pas mal. Mais à Spasm, le 18 octobre, il va rejouer de nouveau.
Parfait. Donc, allez voir. C'est drôle parce que Spass, c'est un festival de films d'horreur. Ce film-là, c'est pas...
Ben, c'est de plus en plus diversifié. Un peu comme Fantasia, que maintenant, il y a tous les genres. À Spasm aussi, tu sais, il y a des films d'horreur, mais il y a aussi tout le temps, souvent, une soirée science-fiction, une soirée spéciale sexe. Mm-hmm. Il y a des comédies, il y a des insolites. Il y a plein d'affaires, là.
Fait que finalement, tous les festivals vont finir par fusionner. Ça va être un méga festival de 6 mois qui va avoir 2000 films. Et ça va être sur tous les sujets.
On va être épuisé.
On va être complètement... On sera pas capable de survivre. Parlant de films, ben passons évidemment à notre prochain film. Parlant de films, on parle juste de films depuis tantôt. Passons à notre prochain film. Est-ce que tes crocs sont bien aiguisés, Kevin?
Ah oui, très.
Une chance qu'on est à distance. Finalement, je m'inquiéterais peut-être autrement. On va parler d'un film qui, d'abord, juste le titre, ça fait sourire. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est film, écoute, j'ai la réalisatrice ici, Ariane Wiesz, voilà. Qui a réalisé ce film-là. J'aimerais d'ailleurs souligner que je connais la personne qui a fait les costumes, donc Kéliane Bonnieu. Si jamais elle nous écoute, bonjour Kéliane, qui a travaillé pour Pieuvre il y a très longtemps. Mais voilà, qui travaille dans le cinéma maintenant, bien sûr. Et donc, comme je disais, s'occupait des costumes pour ce film. Le titre, encore une fois, vend un peu le punch. On va parler de vampires, mais c'est pas, même si on approche de l'Halloween, là, c'est pas le film habituel de vampires, là, Kevin.
Non, c'est ça. C'est pas vraiment un film d'horreur. C'est plutôt une comédie noire. Il y a évidemment un peu de sang. Il y a des gens qui se font mordre et sucer le sang. Tu sais, c'est des vampires quand même.
Oui.
Mais c'est ça. C'est plus drôle que vraiment terrifiant, là.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, pour renforcer un peu ce côté-là drôle, Steve LaPlante, qu'on retrouve ici là, dans le rôle du père, en fait, l'histoire tourne autour d'une j'allais dire jeune vampire, mais en tout cas, il explique dans le film que les vampires vieillissent moins vite que les humains, donc elle a beau avoir l'air d'une adolescente, elle a 80 et quelques, ou je sais pas trop, quelque chose comme
68,
ça.
68, je pense.
68, en tout cas, elle a un âge assez avancé. Donc, Sarah Monpetit, qui joue Sacha, qui est donc cette jeune vieille vampire, et son père, c'est joué par Steve LaPlante. Sa mère est jouée par Sophie Cadieux. Donc, déjà là, ce couple-là, quand j'ai vu les personnages à l'écran, j'étais comme, OK, ça va être, c'est ce genre de film-là. Je savais déjà que c'était un petit peu une comédie, mais je savais maintenant, là, j'avais la preuve que ça allait être quand même assez rigolo, en tout cas un peu déjanté. Steve LaPlante qu'on avait vu qui joue dans Viking, bien sûr, dont on a parlé là, récemment. Donc, est-ce que tu aimerais peut-être nous résumer le scénario de Vampire humaniste?
Oui, ben c'est ça, on rencontre cette jeune vieille vampire qui a l'air d'une adolescente qui est, puis tu sais, comme le titre le dit, est humaniste. Elle refuse de tuer des gens pour se nourrir, mais elle boit quand même du sang parce qu'elle vit avec ses parents, puis dans le frigo, il y a tout le temps des pochettes de sang, fait qu'elle survit grâce à ça, mais éventuellement, assez tôt dans le film, ses parents décident de lui couper les vivres parce qu'ils veulent qu'elle devienne une vraie vampire, qu'elle aille chasser. Donc, elle se retrouve à être comme un peu obligée de tuer, même si c'est contre ses convictions. Puis, la twist qu'elle trouve, encore là, c'est dans le titre, c'est que si elle trouve quelqu'un qui est suicidaire, quelqu'un qui aime pas la vie, qui veut mourir, ben dans le fond, c'est une personne qui est consentante. La personne veut mourir de toute façon, donc en la tuant, en suçant son sang, elle y rend service. C'est comme mutuel.
Oui.
Et le suicidaire qu'elle trouve, c'est un adolescent, un vrai adolescent humain de, je sais pas, 16-17 ans, qu'il est victime d'intimidation, puis c'est ça, il trippe pas dans sa vie, puis il a décidé qu'il voulait mettre fin à ses jours. Sauf que, bon, sans trop en révéler, à travers sa rencontre avec la jeune vampire, je dirais pas nécessairement qu'il va retrouver goût à la vie, mais sa vie va être un peu moins plate, puis il va peut-être se poser des questions.
Voilà. C'est juste une phase. non, mais blague à part. Effectivement, bon, très bien résumé d'abord. J'avais entendu parler du film, bon, évidemment, en sachant que Kellyanne travaillait dessus, mais en sachant aussi que ça avait gagné notamment un prix à Venise, Festival international du film de Venise, gagné le prix de la meilleure réalisatrice, et gagné d'autres prix, là, entre autres au Festival de Calgary, bon, à Sudbury aussi. Et j'ai écouté ça, et je t'avoue que pendant un certain temps, je savais pas trop où ça s'en allait. Parce que, comme tu l'as mentionné, oui, c'est une comédie noire, mais oui, il y a quand même du sang. Puis il y a eu des moments, tu sais, on joue un peu sur les thèmes de l'horreur. Et je me demandais, tu sais, assez rapidement, il y a une scène, je pense qu'on peut en parler. Ils font venir pour amener Sacha à devenir une vampire, une vraie vampire, entre guillemets, avec des crocs et tout ça, et de manger des gens, en tout cas, sucer du sang. Pas dans une pochette, mais dans le cou de quelqu'un pour se nourrir. Ils font venir un clown chez elle pour sa fête. Et l'idée étant que le clown ne ressortira pas de la maison. Et moi, je me disais, est-ce que ça va être un peu... Est-ce qu'il va y avoir du gore? Est-ce que ça va être quelque chose? C'est, ça peut être comédie noire, mais le sang gicle partout. Puis là, tu sais, il se passe différentes choses dans cette situation-là. Et c'est pas vraiment le chemin que le film décide de prendre. Je pense que c'est à la fois quelque chose d'intéressant et quelque chose d'un peu décevant. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, j'ai pas du tout été déçu. J'ai vraiment embarqué à fond dans la proposition. C'est sûr que si on s'attend à un gros film d'horreur, ça peut nous laisser sur notre faim pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment plus le côté un peu coming of age,
ouais.
Un peu film d'ado, puis vraiment la relation qui se dessine entre les deux personnages, entre la vampire puis l'adolescent humain. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment beau là-dedans. En même temps qu'il y a comme le côté comédie noire, tout ça. Puis, tu sais, je trouve que les deux jeunes acteurs sont super bien dirigés. Le film, il est intéressant visuellement. Tu sais, c'est vraiment maîtrisé. La musique aussi, je pense que c'est Pilou qui a fait la musique, qui a un côté très John Carpenter avec des synthétiseurs, des guitares, tout ça. Puis, tu sais, on a mentionné Steve Laplante qui jouait dans Viking. Le réalisateur de Viking, Stéphane Lafleur, c'est le monteur de Vampire Humaniste.
Ah,
donc, bon, voilà. Je sais pas si c'est juste parce que je savais cette information-là, mais je trouve que dans le rythme du film, dans la façon que les gags sont amenés, un peu un petit côté, un ton décalé, il y a quand même une parenté avec les films de Stéphane Lafleur, je trouve.
Ben, écoute, tu vois, je savais pas ça, mais en même temps, effectivement, ça, je vois un peu les liens dans ce que tu dis. Puis c'est tout à fait vrai que on s'articule plus autour du coming of age, qui est une bonne chose effectivement, qui est bien amené. Mais je trouvais aussi, et j'essaie de reformuler ça comme du monde. J'ai trouvé que les parties les plus intéressantes, c'était justement certaines sections. Tu parlais de gags décalés. Je veux pas trop vendre de punch parce qu'il y a des affaires là-dedans. Tu dis bon, on vendrait pas la mèche. On dirait pas évidemment comment le film se termine, mais il y a certains moments où je trouvais ça très drôle de voir la société des vampires aux prises avec des problèmes d'humains. Dans le sens où tu regardes. C'est drôle parce qu'en même temps que j'écoutais ce film-là, la nouvelle série, en tout cas, de l'univers de Castlevania sortait sur Netflix, une série d'animation. Et Castlevania, évidemment, c'est un univers de chasseurs de vampires. Et dans cet univers-là, les vampires sont mystérieux, séduisants, dangereux. Ça se passe à la Révolution française. Donc, ils sont bien habillés. C'est les vêtements de l'époque. Bon. Et là, tu regardes Vampire Humaniste et ça commence dans les années 80. Ils sont habillés comme dans les années 80. Sophie Cadieux a une espèce de brushing ou une permanente, on ne sait pas trop. Et là, leur enfant n'a pas ses crocs, donc ils vont chez un psychologue comportemental, mais pour vampire. Et là, tu dis, y a-tu comme une espèce de société secrète de plein de services sociaux qui servent juste pour les vampires? Et je trouvais qu'un des meilleurs gags, c'est... À un moment donné, Steve Laplante, Sophie Cadieux sont tout seuls dans l'auto, c'est encore dans les années 80. Et là, Sophie Cadieux a dit, c'est pas vrai que je vais aller chasser pour trois personnes. Notre fille est mieux de devenir une vampire pour de vrai. C'est pas vrai que c'est... En gros, elle voulait dire, c'est pas moi qui vais aller faire l'épicerie tout le temps.
Oh, oui.
Et là, Steve Laplante répond, ben là, je suis allé lundi. Puis là, Sophie Cadieux s'en tourne et dit, ben, félicitations. Là, tu dis... T'sais, encore une fois, qui aurait cru que la charge mentale ferait partie des besoins, des problèmes des vampires? J'ai trouvé ça parfait. Ça, c'était vraiment le moment où j'ai éclaté de rire. Puis je dis, OK, là, le film m'a convaincu. Là, j'embarque à 100% là-dedans.
Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a comme un peu différentes portions du film. Comme au début, on voit beaucoup les parents, la famille. Puis il y a ce côté-là un peu comédie familiale. Mais pendant, on les revoit plus tard dans le film, mais la majorité du film, c'est quand même plus les deux adolescents, là. Fait que c'est vraiment ça. Mais c'est ça. Moi, j'ai aimé les deux parties. J'ai aimé le mélange de tout ça. Je sais pas si t'avais sûrement vu dans le temps Carmina. On peut presque dire des classiques québécois de la comédie, que c'était avec des vampires, ça me faisait un peu penser à ça, mais ça, c'était la partie peut-être plus, comme je disais, avec la famille, tout ça, puis la partie un peu mélancolique avec les deux ados, il y a un film scandinave qui date de, j'imagine, une bonne dizaine d'années, qui s'appelait « Let the Right One In », que j'avais beaucoup aimé à l'époque, puis je trouve qu'il y a quand même le côté... dans ça aussi, je me semble que le petit gars, il était comme victime d'intimidation, tout ça, puis il devenait ami avec une vampire, puis il avait le côté un peu c'est ça, coming of age, comme on disait, là.
Mm-hmm. Ben, c'est sûr que quand t'enlèves la couche de comédie, ça reste un film qui, entre autres, porte sur quelqu'un qui veut mourir.
Mm-hmm.
Et tu te rends compte que sa mère est infirmière, donc elle n'est pas là souvent. Elle n'arrive pas à communiquer avec son fils comme du monde. À l'école, cet enfant-là, il n'est pas aidé. Les adultes l'encadrent pas correctement ou offrent pas de l'aide ou voient pas qu'il y a besoin d'aide. Les autres élèves, ben, le harcèlent ou en tout cas font subir de l'intimidation. Puis, encore une fois, si t'enlèves le côté humour, c'est comme, hey, c'est dark. Il y a quelque chose, tu sais, quand t'es au point de vouloir, vouloir mourir, c'est jamais une blague dans ce sens-là, tu sais. Puis, évidemment, bon, je connais pas ton adolescence. Moi, j'ai été victime de beaucoup d'intimidation quand j'étais plus jeune. J'étais jamais au point de dire je vais m'enlever la vie, là, mais je reconnaissais certains moments, tu sais, de se faire traiter des noms, se faire rire de soi, pas être accepté par les autres, pas vraiment avoir d'amis, j'étais content quand même que ces sujets-là soient abordés. Mais tu sais ça, il y a peut-être le petit quelque chose, tu sais, bon, pas que je cherche nécessairement des poux au film. J'ai trouvé que peut-être, tu sais, au début, on parle beaucoup de Sacha, qui est d'après moi le personnage principal. Et après ça, on rencontre Paul, qui est, bon, l'autre personnage principal, mais je trouve qu'à un moment donné, on change d'accent. Au début, c'est vraiment l'accent mis sur Sacha, évidemment, parce qu'on parle de sa vie à elle. Et j'aurais aimé ça peut-être en savoir plus sur elle, la façon dont elle vit cette adolescence-là, même si elle a 60 quelques années. Mais tu sais, de voir comme est-ce qu'elle a elle-même un coming of age? Est-ce qu'elle a elle-même, tu sais, parce que c'est quand même une question de tu pourras jamais être une personne normale, entre guillemets, parce que si t'es au soleil, tu meurs. Si tu manges de la bouffe humaine, tu meurs. Puis elle-même, elle a des passes où elle semble vouloir mourir. Donc, il manquait peut-être ce tout petit quelque chose, cette ligne de dialogue en plus, peut-être, pour, OK, là, ce film-là va vraiment cocher toutes les cases.
Oui, ben c'est un film, tu sais, je pense qu'on l'a pas mentionné. Le film dure genre 1h30, c'était pas mal le 90 minutes réglementaires. Tu sais, c'est un film qui est assez court, puis, tu sais, d'un côté, c'est vrai que ça aurait pu être plus long puis approfondir plus certaines idées, tout ça, mais, tu sais, on le dit souvent, c'est quand même le fun, un film qui s'éternise pas, qui est comme, qui suggère des choses, mais qui se sent pas obligé, mettons, de tout expliquer puis de tout s'étirer, justement, pour rentrer dans les détails de tout. Moi, j'étais satisfait vraiment avec ce qu'on me présentait, puis je pense que, tu sais, là, on a une discussion, c'est intéressant, puis il y a toujours moyen de réfléchir au film, peut-être lire des trucs sur le film, puis qui vont ajouter d'autres interprétations, même si dans le film, on va pas mal direct au but. Là.
Oui, absolument. Est-ce que, quand même, tu recommanderais...
Je recommande fortement ce film-là. Moi, c'est tombé en plein dans mes cordes. Tu sais, j'aime beaucoup le cinéma du genre, j'adore les comédies noires... Puis, tu sais, vraiment, tout dans ce film-là m'a vraiment fait triper. Je pense que c'est pas mal, à date, c'est pas mal mon film québécois de l'année. L'an dernier, mon film québécois de l'année, c'était Viking. Puis, il y avait un petit peu le côté décalé là-dedans aussi. Puis, tu sais, je disais le lien avec Stéphane Lafleur.
Mm-hmm.
Puis, non, c'est ça, je le recommande fortement. D'ailleurs, je sais pas si je vais trop vite, mais le film était présenté au FNC, mais il sort tout de suite en salle ce vendredi 13 octobre. Film, je pense, il sort partout au Québec.
Oui, ben c'est le bon timing. On disait vendredi 13, évidemment.
Oui, ben oui.
Voilà.
Un peu avant l'Halloween aussi, même si c'est pas un vrai film d'horreur, là.
Non, mais c'est dans la thématique. Je pense pas que ça sortait à Saint-Valentin.
Dans les thèmes,
ça marcherait moins.
Ça fait octobre, ça fait Halloween un peu.
Exactement. Ben moi aussi, je le recommande. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que c'est un traitement, comme je le mentionnais, un traitement différent des films de vampires. Bon, tu sais, est-ce qu'on veut des tripes qui jouent? Qu'est-ce qu'on veut? Bon, une réflexion un peu plus sociologique, personnelle. Bon, comme tu l'as mentionné, si vous voulez vraiment des tripes, ben c'est peut-être pas ce que vous devriez aller voir, mais pour ça, il y a effectivement Castlevania sur Netflix, où il y a toutes sortes d'autres films de vampires. C'est pas vraiment pas la première fois qu'on a ce thème qui est abordé au grand écran. Parlant de films québécois, restons chez nous, comme des gens un peu peut-être chauvins, je sais pas. On va parler de notre quatrième et dernier film de cet épisode, Les Jours Heureux, de Chloé Robichaud. Dis-moi ce que tu as pensé de ce film-là.
Ben c'est ça s'en vient prévisible, mon affaire, mais j'ai aussi beaucoup aimé Les Jours Heureux. Mais dans un autre style complètement.
Oui.
Si les gens sont pas au courant, le film, c'est l'histoire d'une chef d'orchestre. Fait qu'on est dans l'univers de la musique classique, donc on est assez loin des vampires et de tout ça, là. Mais pour ce que c'est un autre film que j'ai beaucoup apprécié.
J'ai beaucoup aimé aussi. J'avais pas vu, parce que c'est un film, bon, mais en vedette, Sophie Desmarais, qui avait déjà travaillé avec Laurie Bichaud dans Sarah préfère la course en 2013, que je pense que j'ai vu à un moment donné. Ça fait longtemps, je pourrais pas te faire un résumé exhaustif du film. Mais donc, réalisatrice et scénariste dans ce cas-ci, là, et une actrice qui se retrouve 10 ans plus tard, donc pour faire Les Jours Heureux. Il y a eu récemment, et là le titre m'échappe, un film justement sur une chef d'orchestre.
Tar.
Voilà, exactement. Donc je trouvais peut-être qu'il y a un filon à exploiter, des films sur des femmes chefs d'orchestre. Sophie Desmarais, donc, qui joue Emma dans ce film-là, essaie de faire sa place comme chef d'orchestre, bon, un milieu qu'on imagine assez concurrentiel, essaie donc de faire sa place, essaie de se démarquer. Son agent, c'est son père, ça soulève toutes sortes de problèmes, joué par Sylvain Marcel, qui est très, très bon, la dame, et qui était assez, comme personnage, en tout cas, on pourra en discuter dans quelques minutes. Et donc, le film, ça, c'est elle qui essaie de se démarquer, c'est elle qui essaie de vivre aussi son amour, est amoureuse d'une des violoncellistes qui est dans l'orchestre de Métropolitain, d'ailleurs. C'est tourné à Montréal, ça se passe à la Maison Symphonique, bon, tout ça. Donc, c'est vraiment, on connaît le terrain, là, pour ceux qui connaissent un peu le classique, on n'est pas du tout dans un univers inventé. Et effectivement, comme on peut deviner, il va y avoir toutes sortes de péripéties. Est-ce que tu dirais que c'est davantage un film sur la carrière ou davantage un film sur les relations interpersonnelles?
Ce qui est intéressant, c'est que les deux sont comme entremêlés parce que, tu sais, on mentionnait que, tu sais, sur papier, quand on voit juste la prémisse, on peut penser à Tar, qui était aussi sur une chef d'orchestre. Et dans les deux cas, la chef d'orchestre en question est lesbienne, donc il y avait ce lien-là. Mais, tu sais, on devine, vu que elle est jouée par Sophie Desmarais dans ce cas-ci, elle est beaucoup plus jeune, elle est en début de carrière, et c'est beaucoup qu'elle est pas sûre d'elle. Puis ça se reflète autant dans sa vie personnelle, avec son père, avec son amoureuse, que dans sa carrière. Elle a un côté un peu réservé, timide, elle s'impose pas beaucoup. Puis ce qui est un peu ironique, vu que c'est une chef d'orchestre, qui ça demande justement d'imposer le rythme et le... Je connais pas la musique classique, mais on devine qu'il y a chef dans le mot. Oui.
Faut que les gens t'écoutent. Faut que les gens te suivent. Parce que si effectivement tu contrôles pas ton orchestre, ben ça risque de partir dans tous les sens. Mm-hmm. C'est sûr que tu as une partition à suivre, mais la façon dont tu la joues, à quelle vitesse tu la joues, tout ça, le choix des morceaux, clairement, il y a un travail pour le chef qui est pas juste d'agiter sa baguette là, puis de faire des simagrées là sur un petit podium dans la salle de concert.
C'est ça, exact. Puis t'sais, on lui reproche d'être une première de classe dans le sens où que elle a une super bonne technique, elle est super bonne, mais tu sais, il y a un personnage à un moment donné qui lui dit, tu sais, souvent les premiers de classe sont un peu ennuyeux parce qu'ils sont trop académiques, ils ont pas assez de passion. Elle serait trop un peu dans l'intellect. Et à travers le film, c'est justement, on voit un peu l'évolution qu'elle essaie de un peu plus se connecter sur ses émotions. Puis comme je disais, ça c'est à travers sa carrière de chef d'orchestre quand elle dirige. Des symphonies, des trucs, mais dans sa vie personnelle aussi, elle va apprendre à plus s'écouter, à plus s'imposer par rapport à son père, que, tu sais, on peut le dire, là, c'est une relation pas mal toxique, là.
Oh mon Dieu,
puis
oui.
Puis aussi, son amoureuse, la violoncelliste, elle veut pas vraiment s'engager, tout ça, puis on sent que le personnage de Sophie Desmarais est comme un peu soumise dans cette relation-là, c'est elle réussit pas vraiment à imposer ce qu'elle veut, puis à travers le film, on voit son évolution.
Tu parlais de la relation avec son père, je le mentionnais, c'était aussi son agent, donc ça peut compliquer les choses, et là-dedans, il y a des moments, tu sais, avec les années, tu finis par connaître des comportements toxiques. Au début, tu dis « bon, ben c'est comme ça que les choses fonctionnent, puis c'est tout », puis à un moment donné, tu prends conscience que non, c'est pas normal, cette relation-là est pas saine, et la façon dont le rôle du père est écrit, la façon dont il joue son rôle, Sylvain Marcel, c'est pas juste qu'il est c'est pas une mauvaise personne à 100%. Et c'est jamais les meilleurs rôles quand c'est une caractéristique à 100%. Donc, il y a, mettons, là-dedans, 25% de toxicité, il y a un petit pourcentage d'amour, quelque filiale, quelque part, il y a un 50% d'intérêt commercial. Tout ça se mélange et je suis étonné, en fait, que, évidemment, c'est un film, là, mais que ça prenne autant de temps avant que il se passe quelque chose de dans cette relation-là, qu'il y a vraiment tellement de la friction que ça menace d'éclater. Bon, c'est pas un divulgacheur, vous pouvez comprendre que s'il faut qu'il y ait des changements, à un moment donné, c'est aussi avec son père là, et son agent, qui est encore une fois la même personne. Mais j'écoutais les répliques, puis je me disais, va-t'en de là, qu'est-ce que tu fais là dans cette relation-là, sors de ça. Mais est-ce que moi, par exemple, avec mon père, j'aurais été capable de faire la même chose? C'est ça aussi la question. Il y a une couche de pas d'isolant, mais il y a comme une espèce de gang que tu dis, ça c'est tes relations familiales, ça a toujours été de même, ça va toujours être de même. Donc, sortir de ça, c'est encore plus exigeant.
Mm-hmm. Ben c'est ça, puis tu sais, c'est non seulement se détacher de son père, mais en même temps, professionnellement, vu que c'est son agent, puis on devine que c'est un agent qui a du succès, que ça fonctionne, vu qu'il a réussi à... elle, ça fait un an qu'elle est en résidence à l'Orchestre métropolitain, tout ça, puis que en même temps, si elle se détache de son père, c'est comme un peu se détacher de son agent et peut-être ralentir ou interrompre sa carrière, là.
Donc, vraiment, c'est ça, cette discussion-là, en tout cas, ce débat-là interne, certainement, chez le personnage de Sophie Desmarais. Qu'est-ce que tu as pensé du rôle de la mère?
Ah, wow, bonne question, parce que c'est vrai que le rôle est un peu ingrat. La mère, c'est un plus petit rôle, est un peu effacée. Tu sais, c'est tellement, vu que le père et la fille partagent la passion pour la musique classique, ils travaillent ensemble. Puis bon, leur relation, comme on dit, est un peu toxique, tout ça. Il y a des tensions à travers le film, mais la mère est un peu extérieure à ça. On la voit à quelques reprises, puis tu sais, elle sent un peu les répercussions de leur conflit, mais c'est ça, je pense que c'est un peu ça l'idée du personnage, c'est que c'est vraiment, elle est comme un peu laissée pour compte là-dedans, là.
Oui, puis bon, du développement aussi de ce côté-là éventuellement dans le film, encore une fois, sans trop en dire. Maud Guérin, qui est le nom de l'actrice, là, qui joue le rôle de la mère, j'ai trouvé ça intéressant, cette façon-là, elle aussi, coincée un peu dans cette toxicité-là, puis évidemment, elle est avec son mari depuis des années, et donc, encore une fois, moi, c'est un exemple qui est vraiment, vraiment, vraiment personnel. J'ai eu une relation qui a duré 4 ans où j'étais pas bien. Une relation qui était vraiment pas agréable. Mais tu te dis, ben, ça doit être comme ça que ça fonctionne. Ça doit être comme ça la normalité, vu que pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis tu te rends pas compte nécessairement que c'est pas sain comme relation. Donc, imagine si ça fait 30, 40 ans que t'es avec quelqu'un. Que tu as aimé pendant très, très longtemps et que là, cet amour-là s'est transformé au fil des années pour devenir quelque chose de toxique dont tu t'en rends pas nécessairement compte. Je voudrais pas être à sa place. Là, ça ne doit pas être facile, effectivement, de prendre du recul par rapport à ça. Bref. Comment je pourrais dire ça? J'aimerais t'entendre peut-être sur l'utilisation, tu sais, dont on disait, bon, musique classique, évidemment, chef d'orchestre. le côté d'utilisation de la musique, justement, cette musique classique-là, pour faire ressortir des émotions, comment tu as trouvé ce traitement-là?
Ben, je pense que c'est la grande qualité du film. Autant que le film, humainement, fonctionne, la relation entre les différents personnages, tout ça, je trouve que ce qui distingue ce film-là d'un drame québécois ou autre plus conventionnel, qui a pas l'aspect musical, c'est que justement, à plusieurs moments dans le film, il y a une scène où que le personnage de Sophie Desmarais dirige son orchestre sur scène. Et chaque scène où que pendant, je sais pas, 5-10 minutes, on la voit vraiment diriger puis à différentes pièces de classique, ça reflète son état d'esprit, son état émotionnel à ce moment-là. C'est vraiment, je trouvais ça vraiment bien fait, autant visuellement et évidemment à travers la musique, à travers le jeu de l'actrice. Tout ça, on ressent à chaque fois que, comme la première fois qu'on la voit sur scène, on la sent vraiment, tu sais, comme je disais, le petit côté un peu intellectuel, première de classe, elle est pas vraiment fougueuse, elle se laisse pas vraiment aller. Puis plus que ça avance dans le film, comme il y a une autre scène où, d'orchestre où que vraiment elle est dans la frustration, puis ça va pas bien dans sa vie, puis là, tout va mal pendant qu'elle dirige. Puis bon, on révélera pas la fin, mais la dernière séquence... de classique est vraiment belle et touchante et bouleversante même, puis c'est vraiment autant tout l'aspect de l'histoire qui nous a été racontée, les personnages qu'on a appris à connaître, mais au lieu de passer à travers les dialogues à la fin pour nous dire bon ok qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment purement visuellement et à travers la musique qu'on ressent tout ça à la fin là.
Absolument. La seule question que je me pose, puis bon, probablement que c'est pour au fin de faire le film, là, bon, est-ce que c'est aussi intense que ça dans la vraie vie des chefs d'orchestre? Évidemment, j'en connais pas personnellement, là, mais parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et moi, je me disais pourtant, tu sais, c'est ce genre de job où tu trouves le poste, puis là, c'est comme okay, t'as du temps pour planifier tes choses. C'est oui, il faut que tu répètes, puis oui, il faut que tes musiciens soient capables de jouer correctement. Puis oui, ça doit être demandant parce que là, faut que tu connaisses quasiment la mélodie par cœur pour diriger. Mais à quel point est-ce que c'est aussi intense que dans le film? C'est la question qu'il faudrait se poser. Mais bon, encore une fois, on n'a pas de chef d'orchestre avec nous ce soir.
Ouais, ben c'est ça. Ben ça reste du cinéma. Tu sais, je pense que c'est un peu comme quand on regarde un drame sportif, que ce soit un film de hockey, football, de boxe, peu importe. Tu sais, pour la force dramatique du scénario et du film, il va tout le temps avoir plein d'affaires qui vont se passer, puis c'est vraiment le match le plus important de la vie du personnage, puis là, voilà. C'est super dramatique, puis tu sais, dans la vraie vie, c'est peut-être un peu plus, bon, ben, c'est vendredi soir, je rentre à la job, puis j'ai un match de boxe, ou peu importe, c'est peut-être pas toute la vie qui se joue sur le ring, là.
Non, absolument.
Ou dans ce cas-ci, à la Maison symphonique.
Voilà, exactement. Il y a une petite chose qui m'a fait sourire, puis c'est vraiment parce que je passe peut-être trop de temps à la Place des Arts, parce qu'on m'offre des billets pour des spectacles, mais à un moment donné, il y a une réception après un concert, et cette réception-là n'est pas à la Maison symphonique. C'est à Duceppe, qui est juste à côté.
Ah.
Mais j'ai reconnu le décor, et c'est effectivement à l'extérieur de la salle du théâtre du CEP. Donc, petit clin d'œil, vraiment, c'est comme dans John Wick 2, quand à un moment donné, il passe par la Place des Arts, et tu reconnais l'espèce d'installation vidéo qui est là depuis un bout, là. Donc, très, très petit clin d'œil. C'est pas ça fait pas dérailler le film du tout. Mais moi, je fais comme, ah, OK, petit changement de décor. Ça m'a fait sourire. Peut-être qu'il n'y avait pas le permis pour se tourner à l'extérieur de la salle à la Maison symphonique. Ou peut-être que c'était pas disponible, peu importe. Bref, voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Ce film-là sort le 20 octobre, donc pas évidemment pas la date où vous allez entendre cet épisode. La semaine d'après, est-ce que tu recommandes donc Les Jours heureux?
Oui, ben comme je disais, tous les films dont on parle aujourd'hui, je les recommande à différents niveaux, mais celui-là aussi, je l'ai beaucoup aimé. Puis je trouve que, je pense que c'est important de le dire, moi personnellement, je connais pas grand-chose à la musique classique. Je suis jamais allé à la Maison Symphonique, mais j'ai quand même vraiment embarqué dans le film en tant que film de cinéma, en tant que drame humain. Ça m'a touché. Fait que c'est ça. C'est pas seulement un film qui est destiné aux initiés.
Non, absolument. Je recommande aussi, bon, moi, j'ai un peu plus d'expérience. Mais encore une fois, c'est parce que, bon, j'ai eu le privilège là d'être sur des listes médias. Là. Malheureusement, j'ai pas les sous pour être un habitué de l'OSM ou de l'OM. Mais non, c'est très beau. J'ai trouvé ça très beau comme film. J'ai trouvé la fin qui était excellente, tout en nuances. Puis en même temps, je me demandais, justement, on approchait de la fin, je me disais, OK, comment est-ce qu'ils vont finir ça? Comment est-ce qu'elle va finir par boucler la boucle? Et c'est bien fait. Donc voilà, puis encore une fois, Sylvain Marcel dans le rôle du père, détestable mais incroyable en même temps. J'ai vraiment ça, puis bon, bien sûr, Sophie Desmarais, très très bonne aussi. Donc voilà, pour moi aussi, forte recommandation. Avant qu'on fasse nos petites annonces de fin d'épisode, notamment nos films pour l'Halloween, est-ce qu'il y a d'autres choses, Wolfensee, que tu as vues dont tu aimerais nous parler en quelques mots, là, sans nécessairement faire une longue dissertation, mais as-tu vu d'autres choses qui t'étaient
ouais, ben intéressantes? C'est ça, je pense que je vais y aller très rapidement, vu que ouais. Les autres trucs que j'ai vus, toi, tu les as pas vus. Voilà. Puis, ça fait déjà presque, je pense que ça fait 50 minutes qu'on enregistre. Là. j'ai vu She Is Conan de Bertrand Mandico, qui est un film français qui est un peu une relecture de Conan le barbare, mais avec presque seulement des personnages féminins. Okay. Et c'est un peu genre rétro-futuriste, c'est érotique, psychédélique, en noir et blanc. Un film très bizarre, mais que j'ai beaucoup trippé. Si vous connaissez Mandico, c'est vraiment un autre très bon film de lui. J'ai vu aussi un autre film québécois, Adam change lentement, de Joël Vaudreuil, qui est un long-métrage d'animation. Ça me faisait penser un peu à, dans le temps, les dessins animés un peu plus ados, style ouais. Beavis and Butthead ou Daria. Et c'est l'histoire d'un adolescent qui est victime d'intimidation. C'est un thème, on en a parlé tantôt pour un autre film. Mais dans ce cas-ci, c'est à chaque fois qu'il se fait insulter, il se transforme selon l'insulte. Comme, mettons que quelqu'un qui dit « t'as des petites mains », ben ses mains rapetissent, t'as un long tronc, son tronc étire. Puis okay. C'est vraiment absurde, c'est vraiment malaisant, un peu triste vu que c'est de l'intimidation, mais il y a des gags hilarants aussi là-dedans. Et finalement, un autre film que j'ai vu, mais c'est vraiment un vieux classique, là. C'était pas la première fois que je le voyais. Samedi passé, au cinéma impérial, il y avait La Grande Nuit Mad Max. Il présentait Mad Max de suite pendant toute la nuit. Moi, je suis pas resté pour les quatre. Je voulais vivre un peu l'expérience. Je suis allé voir juste le premier. C'était la première fois que je le voyais sur grand écran. Fait que c'était vraiment le fun d'avoir les réactions du public puis tout ça. Mais c'est ça, je me suis dit, je vais partir après le premier film pour attraper le métro puis pas être pogné au centre-ville toute la nuit, là. Mais c'était une belle expérience. C'est le genre de truc que c'est vraiment un événement que tu vis, mettons, dans un festival, tout ça. Tu peux pas vraiment recréer ça juste à la maison, le côté d'être dans une salle presque pleine. Il y avait plein de gens costumés, tout ça. Fait que c'était vraiment fun.
Ben, tant mieux. J'avais vu passer cette annonce-là sur Mad Max, puis je me disais, j'ai pas l'énergie pour aller voir quatre films. Mais Mad Max, c'est... Je pense que j'ai jamais fini le troisième, par contre. Mais...
Le troisième, c'est le moins bon. J'ai mon ami King, lui, il est resté pour les quatre films, mais il me disait qu'il a dormi pendant tout le troisième.
Ah, ben, c'est peut-être... Ceci explique peut-être cela. Non, mais effectivement, Mad Max, un jour peut-être qu'on fera... Ben, on a fait un épisode, je pense, sur Fury Road.
Je pense que tu l'avais fait soit seul ou avec quelqu'un d'autre, c'était pas avec moi.
Je pense que c'était seul, effectivement. Mais peut-être qu'un jour, on fera le premier ou le deuxième. Le deuxième était très, très bon aussi.
Le deuxième est vraiment bon, ouais.
Oui. Moi, j'ai vu un seul autre film pour l'instant au FNC. J'en ai déjà fait mention sur Pieuvre, mais je peux peut-être rapidement là, en parler. Mm-hmm. Ça s'appelle Between Revolutions, qui est un documentaire. C'est réalisé par Vlad Petteri. C'est une... documentaire, docu-fiction, en tout cas, c'est assez particulier comme structure. C'est une correspondance entre deux jeunes femmes, une roumaine et une iranienne qui était, semble-t-il, venue étudier à Bucarest, qui est la capitale de la Roumanie, et qui, en 78, décide de retourner en Iran parce qu'en 78, ben c'est le prélude à la révolution. Donc débarquer le Shah d'Iran, puis là, bon, cette jeune femme-là est une idéaliste progressiste, tout ça avec son père, et finalement on se rend compte catastrophique que c'est des intégristes qui ont pris le pouvoir, le régime des ayatollahs et tout ça. Et de son côté, ben la Roumaine vit un peu l'horreur communiste sous Ceausescu, le dictateur. Donc c'est une espèce d'échange de lettres. Qui est basé en fait sur des documents de la police secrète. Il n'y a jamais eu de vraie correspondance, semble-t-il, mais ça donne l'impression que c'en est une. Des excellentes images d'archives, il y a de la poésie là-dedans. C'est très beau, c'est très triste aussi, parce que, bon, la Roumanie maintenant, après la chute du mur puis de Ceausescu, ils ont repris un peu du poil de la bête, comme on peut dire. Ils sont maintenant, bon, dans l'Union européenne, je pense, dans l'OTAN, évidemment. Mais l'Iran, bien sûr, toujours sous le joug des ayatollahs. Peut-être qu'un jour, il y aura une autre révolution, on sait pas trop. Mais donc, c'est ça. Between Revolutions, un peu triste, très doux, très poétique. Si jamais vous avez l'occasion de le voir, c'est ça, ça dure une heure. Je pense que ça avait passé aussi à la Berlinade. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu pour l'instant d'autres au FNC. Je verrai sans doute d'autres films d'ici la fin du festival. Donc vous aurez ces critiques-là sur Pieuvre, bien sûr. Avant qu'on se laisse, Kevin, parce qu'effectivement, ça va faire bientôt une heure qu'on se parle. Ce qui est très bien d'ailleurs, que dire, on va pas bouder notre plaisir. Est-ce que tu as envie de nous parler des films qu'on va écouter pour l'Halloween?
Oui, c'est ça. Je pense que les prochains épisodes, ça va être pas mal thématique Halloween.
Oui.
On va faire, comme à chaque année, un classique et un film plus récent. Le classique, c'est Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui est un de mes films préférés, que j'ai bien hâte de revoir. Et le film récent, c'est, je veux pas massacrer le nom, c'est, je crois, c'est The Last Voyage of the Demeter, est-ce que je me trompe?
Exactement, oui.
Qui est encore un film de vampires. On fait beaucoup de films de vampires dernièrement. On a fait, c'était quoi, El Conde?
Oui.
Et là, Vampire Humaniste, aujourd'hui, dans le cadre de l'épisode de FNC. Mais là, on va retourner visiter les vampires.
Ben, d'ailleurs, si je peux me permettre, Last Voyage of the Demeter, c'est basé sur une scène de Nosferatu. Le film de 1922, je pense. D'ailleurs, c'est aussi un excellent film de vampires qui a vieilli, parce que là, bon, il y a 100 ans, les caméras ne sont pas celles qui sont disponibles aujourd'hui, mais qui a encore d'excellentes scènes. Et donc, dans Nosferatu, il y a une scène où il part de Roumanie et il s'en va en Angleterre pour établir un nouveau repère de vampires et donc transporté par bateau, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas d'avion à l'époque. Et qui donc qui arrive et le bateau, tout le monde est mort et bon, c'est la prémisse du dernier voyage du Demeter. J'ai écouté quinzaine de minutes là, avant de devoir faire autre chose, mais c'est ça, c'est la prémisse. Le bateau arrive et là on essaie de remonter l'histoire du bateau en lisant entre autres le journal du capitaine. Et voilà, donc un mystère, horreur, vampiresque, toutes ces sortes de choses. Donc, ça s'en vient bientôt. On va commencer avec le De Palma la semaine prochaine, je pense bien. Et pour, ben évidemment, avant le 31 décembre, oui, voilà, avant la fin de l'année, avant le 31 octobre, on va vous présenter donc ce deuxième épisode halloweenesque. Donc, voilà, le dernier voyage du Demeter. Kevin, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Merci à toi. Presque une heure exactement. On s'est laissé aller.
Voilà, on est pas arrêtable. Merci évidemment à tous ceux qui nous écoutent. Toujours extrêmement apprécié de vous voir au rendez-vous. Vous êtes nombreux, on va le dire. Parce que bon, nous, on fait ça un peu de notre côté et puis on fait ça entre nous pour on a du plaisir. Mais de voir que les gens cliquent sur les liens, de voir que les gens écoutent l'épisode, de voir que les gens nous parlent du podcast, alors que c'est des gens qu'on connaît pas nécessairement, ça nous fait chaud au cœur. Donc, un très gros merci. Avant de vous laisser, bien entendu, je pourrais pas vous dire au revoir sans vous parler de l'infolette de Pieuvre. Si ça vous tente d'avoir accès à tous nos contenus, il n'y a pas d'algorithme là-dedans, il n'y a pas de censure, de blocage, de quoi que ce soit. C'est l'ensemble, donc, des articles, des critiques, des épisodes de podcast, y compris rembobinage. Vous allez sur le site. Il y a un formulaire dans la colonne à droite. Ça prend quelques secondes. C'est gratuit et ça va être livré donc chaque samedi directement dans votre boîte de réception. Et sur ce, je vous dis merci. À la prochaine.